Ce mois de novembre, c'était le mois de l'économie sociale et solidaire en région PACA et dans toute la France. À cette occasion, deux journées de débat avaient été organisées par l'association Les Têtes de l'Art pour réfléchir aux liens entre milieu culturel et économie sociale et solidaire, et questionner ainsi le fonctionnement des structures culturelles. Intéressons-nous donc tout d'abord à cette première journée qui proposait de débattre sur la place des valeurs de l'économie sociale et solidaire dans les structures marseillaises. Laurent Dautzer, directeur de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire PACA, nous présente la situation.
L'économie sociale et solidaire, c'est d'abord une forme d'organisation des entreprises. Donc ce sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Ce n'est pas le secteur d'activité. Donc un acteur culturel n'est pas forcément acteur d'économie sociale et solidaire. Par contre, la pratique fait que ces acteurs sont regroupés, j'avais dit à 97,2% très précisément, sous forme associative. Donc de fait, oui, ce sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Quand on leur pose la question, c'était aussi pour nous de savoir comment ils s'identifiaient comme acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque cette économie affiche et défend plusieurs principes, plusieurs valeurs. Donc c'était aussi savoir sur comment eux appréhendaient leur appartenance à ce secteur-là.
Sam Kabizi, vous êtes directeur de l'association Les Têtes de l'Art. Pourquoi avoir organisé ce débat aujourd'hui ?
On a un repositionnement des associations qui se posent des questions sur la question de leur champ d'appartenance. De quel champ, à quel champ on se rattache ? On n'est pas dans le public, on n'est pas dans le marchand, on n'est pas tout à fait... on est entre les deux, on est hybride. Et est-ce que, grosso modo, le champ de l'ESS et du développement durable, c'est un champ auquel on peut se rattacher ? Pourquoi ? Comment ? Donc il y a quand même une zone de flou autour de ces questions-là, où on sent que les acteurs aimeraient se revendiquer de ce champ-là et en même temps ils ne savent pas trop s'ils doivent se positionner ou pas. Donc aujourd'hui c'était un petit peu clarifier cette question-là. De quoi on parle quand on parle de champ de l'économie sociale et solidaire qu'est-ce qui pourrait faire, quels sont les indicateurs qui permettraient aux acteurs culturels de clairement se positionner.
D'accord, mais alors justement il y a une participante qui est intervenue dans ce sens-là qui questionnait le fait qu'il pouvait y avoir quelque chose d'un peu d'artificiel de la part de certaines associations culturelles de vouloir se rattacher à l'économie sociale et solidaire dans le but d'avoir des subventions, enfin c'était dit comme ça.
C'est une réalité, effectivement. Moi je discute pas mal avec les techniciens par exemple du conseil régional ou autre qui me disent on a une abondance de projets culturels qui atterrissent dans les services qui sont propres à l'emploi ou à l'économie sociale et solidaire. Donc on sent qu'il y a effectivement un vrai repositionnement et j'en reviens à la question du flou, c'est-à-dire que le fait de ne pas poser les indicateurs, et il n'y en a pas un seul d'indicateurs, il y en a plusieurs et c'est plutôt un faisceau d'éléments qui permet de se positionner ou pas dans le champ de l'ESS, on a tout intérêt à clarifier ce positionnement-là et les indicateurs qui permettent d'eux pour très vite faire la part des choses entre les structures qui auraient un positionnement opportuniste, et c'est profondément humain de se dire ben, je vais taper de l'argent là où il y en a, et celles qui sont vraiment inscrites dans les faits, dans leur fonctionnement, pas dans les mots, la question n'est pas là. Il y a certes la question des statuts, là c'est dans l'écrit, mais dans les faits, dans le temps, dans l'organisation de l'association et dans la façon de gérer son projet, oui, elle l'est, elle n'est pas.
Et qu'est-ce qui ferait la différence concrètement? Parce qu'on a un peu du mal à s'imaginer ce qui pourrait être déterminant pour dire elle ne l'est pas.
Oh, ben, j'ai un petit peu travaillé sur cette question-là. Je peux juste donner quelques pistes de ces indicateurs-là. Le premier, c'est la question statutaire. Le directeur de la Chambre l'a rappelé, il y a des statuts qui, de fait, ne peuvent pas être dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Si je suis organisé en auto-entrepreneuriat, en forme individuelle ou en société commerciale SA, SARL, etc., je ne peux pas relever du champ de l'économie sociale et solidaire. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des pratiques de gouvernance qui soient respectueuses de l'individu. Hein, on n'est pas sur ce débat-là. Ça veut dire juste que je ne suis pas déjà du champ de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a la forme juridique. Derrière, moi, je mettrai tout de suite la question de la gouvernance. Comment je fais en sorte qu'au sein de ma structure, il y ait une représentation dans le conseil d'administration, dans la relation aux salariés, dans la relation aux adhérents, aux bénéficiaires, etc., comment j'essaye de faire circuler la démocratie à l'intérieur de cette gouvernance et avoir des éléments de respect des personnes. Ensuite, il y a la destination. Comment, au niveau de mon projet, de sa destination, en termes de public, de territoire, etc., je prends en compte la notion d'environnement et comment j'associe les participants, le territoire au projet, plutôt que de construire quelque chose qui leur est destiné et qui est destiné à un objet simple de consommation. Donc comment on peut rentrer dans une relation interactive, en aller-retour. C'est, pour moi, c'est trois éléments qui me semblent fondamentaux. Il y en a d'autres, mais si déjà on travaille ces trois-là, on peut déjà commencer à faire le tri.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a dans le milieu culturel des contradictions flagrantes avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire ? Je pense notamment à l'utilisation récurrente de stagiaires non rémunérés et la précarité des emplois.
Oui, c'est la gestion des paradoxes. On porte tous nos paradoxes et je crois qu'on a une vraie responsabilité dans le champ associatif culturel sur cette question-là. Moi, je pense qu'on n'est pas très clair de manière générale sur ce volet-là. Et on avance des valeurs humanistes, etc., de respect de la personne, alors que dans les faits, on a tendance trop souvent à reporter sur l'État et les collectivités la responsabilité de la précarité dans laquelle se trouve notre secteur, alors qu'on en est aussi co-responsable. Évidemment, l'État a une responsabilité sur cette question-là, mais quand une association use et abuse de la question des stagiaires, embauche des contrats aidés qui eux-mêmes sont des contrats précaires, moi je suis désolé, une personne qui bosse chez moi et qui gagne 700 euros, je me dis c'est pas possible. Je veux dire, j'embauche un travailleur pauvre. Donc, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau en dehors de l'état de fait du système pour que ça, ce ne soit pas possible? Parce qu'on est sur un territoire, ça a des avantages et des inconvénients, où il y a une forte densité associative et que, paradoxalement, c'est le principe de la densité, des fois, en étant très nombreux sur un petit territoire, on ne sait pas qui est qui fait quoi, etc. Et arrivent des phénomènes qu'on va appeler dans la culture des phénomènes de coopétition, c'est-à-dire qu'on est sur des activités où le principe est un principe normalement de coopération, mais au final, avec la restriction des financements publics, etc., on se retrouve aussi en compétition. Et au niveau des associations, on a beaucoup de mal à gérer cette ambivalence sur la question de coopération et compétition.
Vous alertez aussi, vous êtes aussi des entreprises. Ce matin, on n'a pas du tout parlé de stratégie d'entreprise. Or, vous êtes des entreprises économiques, vous participez à l'activité économique. Il y a des salariés, il y a des patrons, vous avez des budgets, vous avez des contraintes, des objectifs de rentabilité. Je trouve avoir trop peu entendu parler de stratégie d'entreprise, de stratégie de développement, d'organisation de la pérennité économique de vos structures, de stratégie de rapprochement, de mutualisation. Vous avez évoqué le cas de d'un besoin d'une meilleure diffusion de l'information vers le public. Ça a un coût énorme. Ces coûts, vous ne pourrez pas les supporter individuellement. C'est qu'en vous regroupant, même nous en tant que chambre, on ne peut pas. C'est qu'en se regroupant et en développant ensemble des stratégies économiques qu'on peut y arriver.
Dans cette optique, la deuxième journée proposait de questionner le statut associatif et d'évoquer des alternatives possibles à celui-ci pour les projets culturels. Pourquoi, à votre avis, on se pose cette question-là aujourd'hui ? Philippe Oswald.
On se la pose, mon avis c'est qu'on se la pose parce qu'il y a des effets de contexte qui sont forts. Enfin, il y a beaucoup de bouleversements, mais pas que dans le champ de la culture, de manière générale, dans le contexte en général, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, qui sont bousculées et qui sont plus aussi figées qu'elles l'étaient auparavant. Et que donc, il y a toute une série de choix qui se reposent, qui se réouvrent, qui se traduisent, y compris jusqu'à comment est-ce qu'on peut faire les choses ensemble aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut produire ensemble, y compris dans le champ de la culture. Donc ces questions se réouvrent, elles sont plus aussi évidentes qu'avant, elles sont en percussion avec plein d'effets de contexte. Et voilà, je pense que c'est pour ça que ces questions-là se posent de manière forte, quoi. On a pu démarrer en association et fonctionner beaucoup, par exemple, avec des subventions une logique de la culture n'est pas marchande, elle est subventionnée par l'État, etc. Le contexte évolue, l'État se désengage, il y a moins de financement. Bon, ça veut dire quoi? Que l'on arrête le projet ou que ce projet est encore pertinent et qu'il faut trouver une autre manière de le déployer? C'est ça qui se joue, c'est-à-dire que la condition, le contexte évolue ou les conditions de mise en œuvre changent et donc il y a une adaptation nécessaire. Mais ça, c'est vrai pour toute structure, quelle qu'elle soit, pour toute entreprise, pour toute association, pour être à l'écoute de son environnement, pour anticiper le fait qu'il y ait des choses qui vont se transformer, c'est une nécessité.
Est-ce qu'il y a une évolution typique des associations culturelles qu'on pourrait décrire ainsi ?
De la posture d'accompagnement que j'ai au sein de la coopérative Place et du fait que j'accompagne de nombreux projets, c'était un peu un espèce d'archétype de processus qu'on observe souvent, qui est de au départ quelque chose de... on se fait plaisir, de très créatif, on se fait plaisir, on est ensemble, on a un projet qu'on partage, etc. Et puis d'une évolution où à un moment on va se poser la question de l'économique, forcément, parce que celui qui est à l'origine doit aussi vivre lui-même de son activité, et puis le projet a besoin de moyens pour fonctionner. Donc ça va se densifier, donc on va rentrer dans une forme de relation économique. Au début relativement simple, parce qu'on peut faire appel à des emplois aidés ou à des aides au départ, etc. Et qu'il y a des tensions qui vont émerger à partir du moment où on va se poser la question de la pérennisation de ça. Voilà. Ces tensions vont généralement se manifester entre le créateur et celui qui l'a réuni autour de lui, que ça va poser la problématique du fondateur. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont la crise se manifeste. Mais qu'au-delà de cette crise, ce qui est important, ce que ça réinterroge à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'il y a d'essentiel là-dedans? Est-ce qu'il y a un projet ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et ce projet, pour qui il est important? Comment on peut le partager avec qui? Donc à ce moment-là se repose finalement la question du statut, non pas simplement à travers la technique juridique, mais à travers quel est le projet, avec qui on le partage et comment le redéployer à ce moment-là.
C'est à partir de ce moment-là que peuvent devenir intéressantes la question des alternatives à l'association.
Oui, sachant qu'alternative, c'est pas forcément l'association ou autre chose. Ça peut être l'association et autre chose. Et ça peut être aussi un statut individuel et un statut collectif. Et ça peut être... Il y a plein de formes et d'articulations possibles pour retrouver une manière de faire travailler ensemble un projet collectif et des contraintes économiques. C'est ça, c'est cette... Et puis la place des uns et des autres qui vont être différentes des salariés, des bénévoles, de comment donner comment retrouver quelque chose d'opérationnable, d'opérationnalisable pour tout ça, quoi. Moi, je n'opposerai pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas de bon statut. Il peut y avoir une association qui se transforme, il peut y avoir une association qui travaille avec d'autres formes ou qui donne naissance à d'autres formes. En tout cas, il y a une réinterrogation de où on en est et où on veut aller, qui passe par une modification statutaire, mais ça ne veut pas dire que l'association n'est plus la bonne forme.
Mais est-ce que l'on peut réfléchir à la culture comme un secteur économiquement rentable ?
Oui, je pense que c'est l'émergence de l'économie qui va venir percuter peut-être un système de valeurs, peut-être la manière dont on avait pensé les choses jusque-là, etc. Mais cette question-là n'est pas forcément négative. C'est-à-dire que selon la manière dont on la repose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit ensemble, pour qui on le produit, en quoi c'est pertinent, etc., ça va être aussi le moment où on va pouvoir redéployer des alliances, c'est-à-dire faire alliance. L'économie, c'est d'abord de l'échange, et l'échange, c'est de la confiance. Donc la question, c'est comment on construit de la confiance avec d'autres, parce que ce qu'on produit intéresse d'autres. Ça peut être des institutions, ça peut être des clients, ça peut être... Donc c'est là où, à un moment donné, on peut reposer la question du projet et du sens du projet, y compris dans sa traduction économique et dans la manière dont on va construire des alliances gagnant-gagnant, on va dire, avec des partenaires qui vont générer aussi du développement économique. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas opposer l'économie au sens. C'est une erreur qui est souvent faite. Au contraire, il faut voir comment ces deux polarités qui peuvent être en contradiction ou en tension peuvent aussi fonctionner ensemble.
Alors, dernière question, je voulais savoir en quoi tout cela, pour vous, rejoignait l'économie sociale et solidaire ?
Pour moi, ça rejoint l'économie sociale et solidaire parce que justement, dans la capacité à être à l'écoute d'un contexte, d'un environnement qui se transforme, qui change, etc., avoir une diversité citoyenne de gens qui sont capables de se poser la question en même temps, c'est une vraie richesse. Donc quand on arrive en termes de gouvernance à faire fonctionner ça, on peut aussi en sortir de l'intelligence économique. Il y a un lien, il peut y avoir un lien tout à fait évident entre... C'est de l'économie citoyenne, c'est-à-dire quelle société on a envie de construire, pourquoi et comment on a envie de la construire ensemble et quels moyens on se donne pour le faire. Donc c'est à ce niveau-là que pour moi ça rejoint des questions relatives à l'économie sociale et solidaire.
Ces témoignages ont été recueillis à l'occasion des journées débats organisées par l'association Les Têtes de l'Art dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Si ces questions vous intéressent, n'hésitez pas à contacter Les Têtes de l'Art www.lestetesdelart.fr.